Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans RNG. Vous êtes sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris. Je suis en compagnie de Swill.
Salut Ulysse.
Et on est là pour le dernier épisode de la saison 2 de RNG.
Ouais.
Ça fait déjà du coup 12 épisodes pour cette saison, 24 au total.
La vache, ça fait beaucoup quand même.
Ouais, c'est ça. En du coup un an et demi, deux ans.
Ouais, ça va faire... en septembre, ça fera deux ans.
La vache, ouais.
Quand même, hein.
Donc ça fait un moment qu'on vous parle de jeux vidéo, voilà, de ce média qu'on adore et tout. Et
on adore détester aussi.
Ouais, on déteste aussi. Ou on aime être un peu aigri. Et du coup là pour cet épisode, on voulait faire un sujet assez spécial. En tout cas vraiment un sujet qui nous tenait à cœur, que Swill avait beaucoup insisté pour qu'on le fasse, qui serait du coup sur un classement perso. On avait fait déjà un classement l'année dernière sur nos jeux préférés. C'était nos 15 jeux favoris.
Donc full subjectif. Ouais. Voilà. Coup de cœur, ce genre de...
Et là, on est parti sur un classement un peu plus objectif. On s'est dit quand même on allait avoir une sorte de grille un petit peu de points pour se le faire sur notre classement des meilleures consoles de tous les temps.
Voilà.
Voilà.
Vraiment, nombre de 10, pas 15. On s'est dit 10, c'est un bon nombre. Et du coup, il y a beaucoup de règles dans ce classement. Déjà, on parle de consoles de salon. Donc, les consoles portables Nintendo DS, PSP, Steam Deck, ce genre de choses... ne vont pas apparaître dans ce classement. Mais du coup, on a aussi des critères. On s'était dit que c'était bien d'avoir une sorte de ligne directrice, parce que sinon, on fait ce qu'on veut et on met tout ce qu'on veut dans le classement. Mais du coup, ces critères, c'est quoi ? Le premier, c'est le critère du catalogue, que moi, personnellement, je considère peut-être être le plus important quand même.
Pareil.
C'est le critère qui, clairement, va définir une console. Forcément, une console, si elle a des bons jeux, très souvent, ça va être une très bonne console, voilà. Il y a le catalogue,
il y avait le hardware.
Le hardware, ensuite. Si tu veux le présenter rapidement.
Le hardware, alors du coup, les points qu'on s'est notés, donc c'était le catalogue. Donc comme l'a dit Swill, c'était donc le catalogue de jeux. Donc qui est vraiment un catalogue d'une console. On le voit à chaque génération, quand une console s'est finie, c'est dire « Ah bah c'était quoi les jeux qu'il y avait dessus ? À quoi on pouvait jouer ? À quoi vous pouvez jouer ?» Si vous achetez cette console, même dans un Easy Cash, vous la récupérez sur une brocante ou autre. Et quoi comme jeu à faire ? Donc ça, c'est vraiment le point web primordial. C'est ce qui fait se vendre des consoles, hein. Les system sellers, ça sert à ça. Le critère numéro 2, ouais, le hardware, c'était plus la confection de la console.
Ouais.
Dire en termes de confection de processeur, de GPU, CPU, vis-à-vis du traitement du son. Si c'est des consoles, du coup 8 bits, 16 bits, c'est ce genre de choses.
La manette est un hardware.
La manette aussi, c'est du hardware. C'est qu'est-ce que ça propose au niveau un peu geekos technique. Voilà.
Est-ce que une console va révolutionner techniquement le jeu vidéo, ce genre de choses. Donc, c'est des choses qui vont alimenter, faire que est-ce que c'est une bonne console, pas une bonne console. On avait quoi d'autre ? On avait l'influence.
L'influence, ouais, en tout cas.
Dans l'idée, l'influence, c'est un peu une sorte. C'est quelque chose qui peut résulter, du coup, de l'hardware et du catalogue d'une certaine manière. L'influence, ça va être qu'est-ce que fait cette console pour les gamers ? Qu'est-ce qu'elle va changer ? Donc c'est peut-être le critère le plus flou, d'une certaine manière. Vraiment, c'est quelque chose qui est quantifiable, mais qui est plus compliqué à pointer du doigt que le hardware et le catalogue.
Quoi. C'est un peu ce qu'on disait du coup tout à l'heure, là, avant d'enregistrer l'épisode, on se disait, est-ce qu'on mettait des consoles actuelles, telles que la Xbox Series S, Series X, la Switch 2, par exemple, qui vient de sortir, ça fait deux semaines, est-ce qu'on pourrait la mettre dans le classement, ou la PS5 ? Et en effet, on ne peut pas estimer vraiment leur influence vu qu'on n'a pas fini la génération. Donc, au-delà d'autres considérations, on ne pouvait pas vraiment les noter sur ce critère-là.
Mais si vous voulez savoir, il y a peu de chance. Il y a peu de chance, en vrai. C'est des bonnes consoles, mais les places sont vraiment là. On a des consoles dans le classement. On va aller les chercher quand même.
Et le quatrième critère du coup, qu'on avait mis en place, et ça, tu l'as mis en bonus, c'était l'originalité.
Ouais.
Donc ça, c'est un critère qui est très personnel, je trouve.
Ouais.
Qui est vraiment en mode, qu'est-ce qu'on estime être original sur une console ? Ça peut être son design, la façon dont elle est juste... Est-ce qu'elle est jolie ou pas ? Ça peut être sa manette, ça peut être son menu. Enfin, ça peut être justement, est-ce qu'elle amène quelque chose d'un peu différent ? vis-à-vis des standards de l'industrie.
Là, c'est vraiment le côté, voilà, un peu plus perso, je pense. Mm. La manière dont on va fonctionner, ça va être très simple. C'est en fait, ça va pas être comme l'année dernière quand on faisait, voilà, Ulysse présente son numéro 15. Ensuite, c'est moi, je présente. Non, c'est tous les deux, on va donner notre 10e place, notre 10e ouais. position. Et si on a la même console, bah tant mieux. Ça nous fera gagner du temps. Ouais. Ça nous fera gagner du temps. Et voilà, on va tous les deux présenter nos consoles et ensuite on partira.
Voilà, on va échanger un peu là-dessus. Mais pour commencer du coup cet épisode, donc avant le petit roulement de tambour, on va peut-être commencer par les consoles qui n'ont pas été dans le classement. Je sais que du coup...
Attention, ça peut spoiler. Hein. Ça se trouve, c'est
possible. Mais je sais que Swift voulait en parler vraiment d'une console. Moi, il y en avait 2-3 que je voulais quand même évoquer parce que peut-être qu'on pouvait se dire « Ah, est-ce qu'on la mettrait ou non ?» Et je me suis dit « Ok, genre, j'ai envie d'au moins faire un petit shout-out. »
Moi aussi.
Voilà. Donc, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, dans le dur, commençons par les consoles qui sont pas... Voilà, les mentions honorables. Peut-être qu'ils ne sont pas dans le classement, mais en soi, on les aime bien quand même.
Allez, je commence. Vas-y. Je pense en plus on est assez d'accord. On n'a pas la Dreamcast dans le classement.
Je suis d'accord, oui.
Dreamcast, console de 6e génération. Dernière console de Sega. C'est une console vraiment, voilà, en termes de critères d'originalité, elle est folle quand même. Genre vraiment, elle est folle.
Moi, je l'avais noté 5 sur 5 à ce niveau-là.
Ouais, mais elle est vraiment trop cool, vraiment, que ce soit l'intro, t'sais, le logo, la manette. C'est vraiment une console vraiment qui, bah, comme quasiment toutes les consoles de cette génération, c'est-à-dire bah, la GameCube et la Xbox, ont vraiment souffert du raz-de-marée PlayStation 2. C'est celle qui en a le plus souffert parce que c'est une console qui est sortie 1 an et demi, 2 ans avant la PlayStation 2. Ouais. Et elle a raté son coche parce que bah, même quand elle était sortie, et que c'était une bête technique, c'était vraiment une console qui était... Je crois que c'était l'une des premières consoles où il y avait l'argument next-gen. Vraiment, c'est la première fois où on disait, ouais, c'est une console next-gen, il y a des expériences next-gen dessus. Elle a des titres absolument fous. Je pense que son titre le plus fou et remarquable, bah, c'est Shenmue. C'était vraiment le titre que tous les gens attendaient. Qui est sorti que sur Dreamcast, qui n'est jamais arrivé
Shenmue
sur
PlayStation. Ouais.
Et c'était vraiment voilà, le titre de la console. Mais derrière, c'est Sonic Adventure, c'est
les Soul Calibur, ouais, c'est Crazy Taxi. Moi, je vais te noter évidemment les Jet Set Radio. Mm. Et même ça, tu vois, le modem jeu en ligne, tu vois, techniquement, elle avait intégré du coup le côté jeu en ligne avant même le Xbox Live. Et du coup, ouais, il y en a beaucoup, ils ont découvert Quake 3, ils ont joué vraiment en ligne de ouf. Avec la Dreamcast, quoi. Donc, c'est une console qui est assez légendaire. Mais moi, je sais que je l'ai pas mis dedans et un peu contraire parce que la durée de vie, elle est trop courte.
Ah oui.
Parce que vraiment, elle est sortie du coup à 98-99 et Sega a arrêté la production de la console en 2001.
Elle est pas arrivée au bon moment. Mmh. Mais c'est une console vraiment spéciale. Je pense que si un jour, par exemple, dans une saison 3, on fera peut-être, je sais pas, un épisode sur Sega, je pense que la Dreamcast, voilà, c'est pas la meilleure console de Sega, clairement.
Ouais.
on en a une dans le classement, clairement, mais. Elle méritait cette mention. Ouais. Voilà. Donc,
Moi, après, dans les consoles que je voulais mentionner, il y en avait une qui va un peu rejoindre pourquoi peut-être il y en a une ou deux qui sont dans mon classement, parfois un peu plus basse ou autre. C'était l'Atari 2600.
Pareil.
Je ne l'ai pas mis dans le classement.
Moi non plus.
Parce qu'il y avait un peu ce truc où, genre, historiquement, elle est hyper importante.
Ouais.
C'est la première console de jeu. C'est la première console de salon. C'est la console où on s'est dit, ah bon, on peut mettre des cartouches, on peut avoir un catalogue de jeux. Mais en fait, au-delà de l'intérêt académique, en fait, il n'y a pas grand intérêt à y jouer aujourd'hui, je trouve.
Oui.
C'est que je ne vais pas recommander à un mec, ah, tu veux commencer à te mettre dans le jeu vidéo,
prends une Atari
2600, après tu vas step up petit à petit. C'est comme un peu si on demandait à quelqu'un de passer le permis de conduire, genre,
prends un cheval,
après peut-être tu peux voir pour passer en manuel avec une petite 2 chevaux et tout. Non. Ça va pas trop, c'est vraiment ça, voilà. Ouais. Donc, je suis en mode, elle est hyper importante, il faut voir la console que ça, s'intéresser à cette console, à voir ce qu'elle a apporté. C'est rigolo à y jouer peut-être, je pense, sur des barres à jeux, des trucs où il pourrait vous en exposer une ou deux, mais c'est pas une console que je vais recommander à avoir chez soi, ou à dire, ah, il faut que vous complétiez le catalogue, vous passiez les jeux dessus. C'est plus, voilà, genre un petit plaisir à redécouvrir quelque chose.
Merci, vieux père. Bah, du coup, je pense qu'on peut, commencer. Bah, moi, du coup, j'ai en 10e, j'ai la Nintendo Wii. Mais toi, du coup, quelle est ta 10e place ?
Moi, c'est la Nintendo 64.
Je ne l'ai pas dans mon classement. Ok.
Coup, ok, vas-y. Pourquoi est-ce que toi, tu as mis la Wii en 10e ?
Bah, la Wii, c'est une console sortie en 2006. Tout d'abord, aux États-Unis. C'était vraiment un changement majeur. Elle sortira voilà, le 19 novembre aux États-Unis, le 2 décembre au Japon et le 8 décembre en Europe. Et c'est une console qui a fait quand même 101 millions de ventes. C'est-à-dire que c'est plus que la PS3, c'est plus que la 360, qui elles sont à 85 millions ouais. d'exemplaires, elles sont vraiment à égalité, de pas très loin. Et bah là, oui, c'est celle qui a su tirer son épingle du jeu dans cette génération, qui est vraiment une génération. Moi, en rétrospective, je la trouve un peu faiblarde comparée à la génération qui la précède et celle qui la succède. Et là, oui, en fait, il y a ce côté de. Elle marque quand même un tournant vis-à-vis de l'histoire du jeu vidéo, vis-à-vis de Nintendo, parce que c'est la première console qui, voilà, elle vient après la GameCube, et Nintendo arrête tout simplement de faire la course avec PlayStation et Microsoft vis-à-vis de la course à la performance, ce genre de choses. Il y a vraiment un décalage vis-à-vis de Nintendo qui, là, se concentre vraiment sur le marché casual, en fait, avec une promesse, c'est quoi? C'est le motion control. Donc, en termes d'originalité, il n'y a pas deux consoles comme ouais. la Wii, déjà. Et surtout, vis-à-vis de culturellement, en fait, je pense que, comme c'est une console qui, c'est clairement, est sortie de ce carcan-là qu'avaient Sony et Microsoft, c'est-à-dire, on parle aux gamers, vraiment, il y avait un côté très masculin, en mode, tu sais, voilà, côté cool, ce genre de choses, post-2000. Nintendo était vraiment dans un délire de, on est intergénérationnel, on parle aux vieux comme aux petits, et on parle vraiment à tout le monde, et c'est vraiment ce côté de, je pense que, là, oui, ça parle vraiment beaucoup plus aux gens. Ça parle beaucoup aux gens dans l'esprit collectif, en fait. Je pense que beaucoup de gens ont un rapport avec Wii Sport, en fait. Vraiment, il y a un côté de... Oui. Le fait que... Ouais. Je pense qu'il y a énormément de monde, même qui ne sont pas du tout des gamers, ils ont joué au bowling sur Wii Sport, en fait. Ils ont au moins testé la Wii, que ce soit genre un vieux dans une maison de retraite. Vraiment, les images de... Voilà, moi, ça me termine toujours quand... et, voilà, tu vois des vieux jouer au tennis, ce genre de choses. Mais c'est un truc que... Vraiment, la Wii a réussi à briser des barrières comme aucune console l'avait fait avant. Ce truc de, on brise de ce voilà, le jeu vidéo, c'était plus un truc que pour les gamins, en fait. Et derrière, voilà, la Wii, ok, un gros défaut qu'elle avait, c'était clairement, du coup, bah forcément, c'était une console qui était beaucoup moins performante.
Bah, c'était une GameCube avec un nouveau style, voilà. Quoi.
C'était une console qui était beaucoup moins performante que la PS3 et la 360. Du coup, bah forcément, vis-à-vis des éditeurs tiers, il y avait moins de jeux adaptés à la Wii, quoi. Alors qu'on était vraiment sur voilà, il y avait pas de... Il y avait le catalogue Nintendo qu'on connaît bien, c'est-à-dire, voilà, j'ai noté 2-3 jeux, voilà, comme Mario Galaxy 1 et 2, qui sont des jeux absolument incroyables. Oui. Wii Sport, c'est incontournable. Mario Kart Wii, c'est pas le meilleur, mais ça reste un Mario Kart. Tu vois. J'ai noté Rayman Origins, Donkey Kong Country Returns, Zelda Twilight Princess. Ça reste quand même des jeux qui ont marqué le passage de la Wii. Qui est vraiment un passage, moi personnellement, qui m'a beaucoup touché. Je me souviendrai toujours, voilà, de quand j'ai eu ma Wii Sport, ce genre de choses. C'est un moment vraiment inoubliable. Mais ouais, derrière, elle souffre vis-à-vis du catalogue, et ça, c'est un gros souci, parce que, comme je l'ai dit, c'est peut-être le critère le plus important. Et ça fait mal à la Wii. J'ai mal à ma Wii.
Ok. Bah moi, du coup, si je ne l'avais pas mise, c'est parce que... En fait, je m'étais posé la question entre elle et la Nintendo 64. C'était un peu les deux consoles Nintendo. Je me suis dit, j'avais du mal à savoir comment les placer. Et en fait, c'est que pour moi, la Wii, tout ce qu'elle fait, qui est assez révolutionnaire et tout, il y a une autre console qui va l'encapsuler plus tard. On en reviendra plus tard. Et du coup, je l'ai pas mise. Par contre, la Nintendo 64, ce qui est drôle, c'est qu'au début, je suis parti de façon un peu négative. Quand j'ai commencé à me dire pourquoi est-ce que je la mettrais dans le classement et tout, je me suis dit, bah en fait, déjà, le fait qu'elle choisisse les cartouches au lieu du CD, c'était un choix complètement débile, parce que par exemple un CD c'était genre 600 mégaoctets qu'on pouvait mettre dessus, là où une cartouche c'était 64 MO, et du coup donc c'était hyper chiant pareil pour l'optimisation pour les jeux à l'époque, pour pouvoir mettre des jeux sur la N64, alors qu'elle était quand même plus puissante je crois que la PS1, mais juste elle avait ce lecteur là, donc c'était chiant. La manette, elle est atroce niveau ergonomie, c'est vraiment le genre de manette où quand j'étais petit je jouais avec, et maintenant quand je la reprends je me dis mais comment j'ai fait pour prendre ce truc qui est pensé pour avoir trois mains. C'est complètement stupide. Et du coup, avec voilà, le joystick et tout, voilà, donc ça m'avait saoulé. Mais après, je me suis rappelé, bah, en fait, le catalogue. Et là, je pense que c'est une des consoles où, si on part, on va parler forcément de jeux et de catalogues qui ont influencé l'industrie et le jeu vidéo. Mais quand on parle de la Nintendo 64, on parle de la console, pour moi, qui a inventé la façon dont on joue à des jeux en 3D, en 3 dimensions, vraiment, on pense la 3 dimensions. C'est-à-dire que, genre, ouais, t'as eu du Mario Kart, mais il y a eu du GoldenEye. Et du Turok, et du Ocarina of Time, qui est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur jeu de tous les temps, quasiment tous les ans, quoi. Si on en parle, il est tout le temps là. Rogue Squadron, qui était incroyable. Mario 64. Astro Bot a gagné jeu de l'année l'année dernière. Il y a eu des Mario Galaxy et tout. Mais voilà, la base, c'est Mario 64 qui a posé comment on joue à un jeu de plateforme en 3D, en fait. Et ces bases-là, elles vont durer pour les siècles à venir. Donc, en fait, c'est pas une console qui est hyper attractive sur plein, plein de points. Je trouve que vous avez des cartouches, de la manette ou autre.
Surtout le fait qu'elle est sortie trop, vraiment, assez tard dans la
génération. Ouais, elle est sortie assez tardivement.
Vraiment après la PS1 et la Saturn.
Mais il y a ce truc où, c'est vrai que là, il y a aussi un peu d'affect. C'est que moi, quand j'ai joué petit, vraiment, quand je jouais à Ocarina of Time, je l'ai jamais fini en plus. Hein. Je l'ai juste commencé, j'ai joué des heures et des heures sur 64. Il y a un rapport où c'est une console qui te fait rêver par son catalogue. En fait, il y avait un truc où, genre, ouais, ces jeux-là, je peux y jouer que sur cette console. Et encore maintenant, je pense à Ocarina of Time, je pense à Mario 64, je pense pas au remaster qu'il y a eu sur Switch ou à des portages qu'il y a eu sur Nintendo DS. Je me dis, non, c'est un jeu Nintendo 64. Rien que pour ces titres-là, et aussi son design que je trouve vraiment quand même super beau. Je trouve qu'elle est magnifique avec les petits ports à l'avant et tout pour les manettes. Pour moi, c'est une console qui est au moins dixième.
Ok. Non, mais moi, je l'ai pas dans mon classement. Ouais. Parce que, ouais, elle est importante, mais elle discutait vraiment. Parce qu'en fait, les consoles qui discutaient avec la dixième place, c'était pas du coup la Wii, la Dreamcast, la Nintendo 64.
Ouais.
Donc, voilà, c'est juste la Wii qui est passée, mais
Non, mais je capte.
De toute façon, la dixième place, c'est très souvent, c'est le Joker. En mode, on l'avait, et là, tu vois, la Wii, j'ai un affect particulier avec, c'est pour ça qu'il fallait que je la mette. Mais voilà, du coup, je pense qu'on peut passer à la 9e place. Vu que je commence.
Vas-y, vas-y.
Dis-moi. Et bien, moi, j'ai la console de Nintendo.
Oh, ok.
J'ai la NES.
Ok. Elle est dans mon classement, mais elle n'est pas là.
Ok, tu es allé plus haut.
Ouais, j'allais plus haut.
J'ai la NES dans. Et la première, c'est-à-dire la première console de Nintendo. Sortie du coup le 15 juillet 83 au Japon. Elle sortira 2 ans plus tard, c'est-à-dire en octobre 85 en US. C'est okay. Vraiment, on était... bon, j'exagère, j'ai pas envie de dire préhistoire du jeu vidéo, mais on était quand même à un moment où le jeu vidéo, ça se passait au Japon.
Du coup, tu veux que je te dise ma console ou pas?
Oh purée, excuse-moi, je t'ai coupé.
J'ai oublié.
Vas-y, vas-y.
Parce que moi, la 9e, c'est la première Xbox.
Ok.
Voilà, j'ai mis en 9e.
Je l'ai pas dans mon classement.
Ok.
J'ai qu'une seule console Microsoft dans mon classement.
Ok.
Et je l'ai pas mis, mais quand je parlerai d'autres consoles de la génération, la sixième génération, j'expliquerai pourquoi pas la Xbox. Mais du coup, la NES.
Vas-y, vas-y.
Du coup, voilà, elle sortira le 15 juillet 83 au Japon, en octobre 85 aux États-Unis, et en France, il va falloir attendre octobre 87, c'est-à-dire 4 ans plus tard. C'est un truc de ouf, quand même.
Ouais, c'est fou.
Mais voilà, la NES, c'est quand même, pour une console sortie en 83, c'est 62 millions d'exemplaires vendus pour une console voilà, de début 80, où le jeu vidéo était vraiment en plus dans un état de crise. On était, voilà, lors du crack économique qu'a subi l'industrie du JV. Mais du coup, voilà, ce crack, je dis pas que Nintendo a sauvé le jeu vidéo, tu vois, mais il y a le truc de... C'est la première console, c'est-à-dire, moi, dans ma tête, et je pense que c'est peut-être le cas pour beaucoup de monde, c'est un peu la première console de jeu vidéo, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une console qui se présentait même pas comme une console de jeu vidéo. On parle de Nintendo Entertainment System. C'est une boîte à s'amuser, c'est une boîte à divertissement, en fait. C'est parce que le jeu vidéo avait vraiment mauvaise presse à cette époque-là, parce que voilà, Atari était en plus vraiment en train de chuter, c'était vraiment le économiquement, c'était le bordel, mais ce qui a relancé l'industrie, c'est l'arrivée de la NES. C'est l'arrivée de la NES, mais la raison pour laquelle je l'ai en neuf, c'est parce que elle a mis les bases du... C'est-à-dire... Le patrimoine de Nintendo, il arrive là, en fait, qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Castlevania, Dragon Quest, Final Fantasy, Mega Man, Duck Hunt, Punch-Out. C'est... Là, il y a des mots, normalement, ça tilte dans vos têtes, en fait. C'est-à-dire, elle a mis en place tellement de bases aujourd'hui. Enfin, genre, on en parle encore aujourd'hui. C'est... Oui, techniquement, voilà, la manette, elle est absolument atroce. Je veux dire, c'est quoi, ces 2 boutons et un petit pad. Les manettes, voilà, elles sont collées à la... le câble est vraiment tout petit.
Ouais, t'es vraiment collé à ta télé cathodique, genre.
Mais après, c'est vraiment pensé pour les Japonais qui, eux, jouaient par terre et étaient très proches de leur télé. Donc, c'est une console vraiment spéciale, en fait. Voilà, la Famicom, comme elle s'appelait au Japon, elle est... Je peux pas ne pas la mettre. Vraiment, je trouve que 9e place, elle est bien, parce que oui, forcément, derrière, les jeux dessus ont vieilli. Mais derrière, c'est juste trop important, vraiment, en termes d'influence, pour ne pas la mettre, en fait. merci vieux père. Genre ouais. vraiment, Ataris en mode merci tonton, la NES en mode ah merci vieux père, merci vieux père.
bah moi du coup j'ai mis la première Xbox. Okay. J'ai beaucoup hésité et tout, même à ce que je la mettais dans le classement. Et en fait, il y a ce truc où genre ça va être tellement bête, mais ouais, Halo. Il y a un moment donné, je pense au FPS console, je pense à Halo. Et ça a beaucoup joué. Après, il y avait eu plein d'autres éléments quand même aussi où genre, je trouve que c'est un design déjà qui est très original. L'idée que t'as une sorte de grosse boîte en forme de X. C'est bête, mais c'est très 2000, très Monster, Red Bull, énergie. Tu sais, genre, très boisson énergisante codée, tu vois.
Mountain Dew, ouais, Doritos, ce genre de conneries.
Et elle a cette vibe que je trouve vachement cool où elle avait un disque dur intégré déjà. Donc, il n'y avait pas l'idée d'avoir comme avec la PS2, du coup, tes cartouches mémoire, tout ça. Des graphismes supérieurs à la PS2.
Ouais.
Et une vidéo de Digital Foundry qui a retrouvé un jeu japonais qui tourne en 720p.
Pour l'époque, c'est de la machine. Hein.
En 2003-2004, alors qu'il n'y avait même pas encore d'HD, quoi. Genre, la Xbox 360, même la génération, du coup, la 7ème génération n'était pas encore faite. Et pourtant, elle était capable de faire tourner un jeu comme As. Donc, c'est une console qui était vraiment une bête de puissance. La manette, du coup, la Duke, elle était controversée parce que super grosse, etc. et tout. Mais elle est innovante parce qu'elle avait quand même du coup déjà le double stick aussi et les gâchettes analogiques.
Okay.
Donc pour les jeux de course et tout, ça reste aussi une mini-révolution qu'on voit maintenant sur toutes les manettes à part la manette de Switch et les Pro. Et en vrai, elle avait un support aussi de développeurs occidentaux. Genre c'est qu'on met Splinter Cell, Fable, Knights of the Old Republic, du coup Star Wars, les PGR, donc Project Gotham Racing. Je trouve que c'est un catalogue de jeux qui est super bon. Qui est une console qui a une aura vraiment folle avec son design un peu vert fluo.
Okay.
Et du coup, je me dis, ouais, c'est une console. Il n'y a pas énormément de consoles que Xbox, Microsoft a fait qui finalement, je pense, sont marquantes, mais je me dis, il y en a au moins une ou deux. Celle-ci, je pense, elle doit être dans le panier, même si c'est à la fin du panier, donc 9ème. Je trouve qu'elle mérite sa place.
Ok, ok. Moi, je ne l'ai pas parce que bah, forcément, c'est une console qui va subir de plein fouet cette génération à cause de la PS2. Mais je pense qu'on peut passer à la prochaine place parce que. J'ai une console de la 6ème génération à la 8ème place parce que j'ai la Nintendo GameCube en numéro 8. Tu l'as aussi ?
C'est la GameCube numéro 8
aussi.
Oh, let's
go, purée. J'ai eu peur, je pensais que t'allais pas l'avoir. Oh, purée, je suis tellement content. Putain, t'as mis la GameCube aussi de Xbox. Ah, oh, merci. Ah, oh, merci. Merci. Ah, oh, j'ai eu peur. Parce que dès que j'ai vu l'Xbox, je me suis dit, oh mon dieu, il a pas la GameCube dans le
classement. Non, j'ai mis la GameCube en 8ème.
Oh là là, non, mais ça me touche de fou.
En fait, j'ai mis la GameCube en 8ème. Ce qui est marrant, parce que du coup, je vais en parler parce qu'il va beaucoup plus en parler que moi. Parce qu'il sait que moi, la GameCube, j'y ai joué parce que c'était mes voisins qui l'avaient. J'avais pas la GameCube du coup. Et c'est une console où, vas-y, que ce soit son design, la manette, les jeux. En fait, c'est une console qui me faisait un peu rêver. Qui, je sais, est grave sous-cotée dans le catalogue de chez Nintendo en termes de hardware. Mais elle a une aura où. Je me suis dit, quitte à mettre une console qui foncièrement, encore maintenant t'en parles, il y a un côté un peu mythique. Elle a laissé cette trace où tu parles à quelqu'un de la GameCube et tu dis, ah quand même, c'est une console genre... Tu sais, faut pas y réfléchir 30 secondes pour savoir ce qu'elle a d'important. La Xbox, elle a quelque chose d'important, mais il faut le chercher, entre guillemets, ça va pas péter tout de suite. Là où je me dis, ouais, GameCube, tu parles à n'importe quel joueur un petit peu fan de JV et tout, il va voir pourquoi, ouais, c'est une console qui était marquante en fait.
Tu parles à mon cœur, là. Tu parles à mon cœur. Non, oui, la GameCube, déjà, il faut savoir, c'est ma console préférée, en plus. Vraiment, c'est ma première console, vraiment, de salon. Là, ça va être une lettre d'amour, en fait, vraiment, cette console-là. Bah, moi, ce qui me tue avec cette console, c'est que c'est une console qui a été sacrifiée. En plus, voilà, la GameCube, c'est une console qui s'est vendue qu'à 21 millions d'exemplaires. C'est ridicule. Mais derrière, il y a eu ce côté avec la GameCube, comme tu l'as dit, où vraiment, avec le temps... Où voilà, on a commencé à voir, on est sorti de la 6ème génération, pardon. On a commencé à regarder avec voilà, un peu de recul. Et la GameCube a commencé à gagner en popularité. En fait, l'image de la GameCube a vraiment monté voilà, en croissance avec le temps. Mais c'est une console sacrifiée parce que 2 ans après sa sortie, du coup, bah, en septembre 2001 au Japon, 2 ans après sa sortie, on mentionnait déjà la Wii. C'est pour vous dire, après ça c'était à cause de la PS2, il fallait tout de suite que Nintendo se redynamise et passe à autre chose, et du coup forcément ça a vraiment sacrifié, qui a été vraiment sacrifié bah, au service d'un renouveau qui est nécessaire de la part de Nintendo, parce que forcément la GameCube était dans la course avec, était à la course avec la PS2, et forcément la course elle n'était pas gagnable, surtout que c'était une console, à cette époque-là il me semble que les consoles de cette génération-là étaient des consoles 128 bits, et la GameCube c'était une console qui se situait entre 32 et 64.
Okay.
C'était une console qui, du coup, était beaucoup moins puissante sur cet aspect-là, mais elle avait, en termes de... on commençait déjà à parler de flop à l'époque. On parlait de gigaflop. Là, aujourd'hui, on parle de tera. À l'époque, on parlait de gigaflop.
Okay.
Et la GameCube avait cet argument-là où, en fait, du coup, en termes de temps de chargement, et il y avait certains jeux qui étaient beaucoup plus beaux sur GameCube que sur PS2, par exemple. Resident Evil 4,
ouais.
Metroid, ce genre de choses, les temps de chargement étaient beaucoup plus rapides sur Resident Evil 4 que sur PS2. Donc, elle avait quand même des arguments techniques, mais elle a un design. Je pense que... voilà, ce petit cube-là, je pense qu'il n'y a aucune console qui ressemble à ça. Et la manette aussi, moi, je pense que la meilleure manette de tous les temps, je pense que c'est la manette Xbox, la manette 360 spécifiquement, vraiment, elle est absolument parfaite. Mais pour moi, la manette de GameCube, genre, visuellement, vous pouvez vous dire assez bizarre, prenez-la en main, c'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle, cette manette. Et en plus, elle emporte avec elle un catalogue qui est vraiment unique. C'est-à-dire, il y a plein de jeux. Par exemple, voilà, Luigi Mansion, Super Smash Bros. Melee, Zelda Wind Waker, RE4, Beyond Good and Evil, F-Zero GX, Animal Crossing, Pikmin. Il y a plein de jeux là-dedans. En fait, bah, ils ont fait le patrimoine de Nintendo depuis la NES, clairement. Mais Nintendo, en fait, a su, comme personne, expérimenter avec son patrimoine, en fait. C'est-à-dire faire de Metroid un FPS, redéfinir le style visuel d'un Zelda à travers le cel shading, c'est vraiment un truc de ouf, en fait. En fait, au-delà de ça, je veux dire, elle apporte en Occident Pikmin, Shibirobo, Animal Crossing. Aujourd'hui, Animal Crossing, voilà, c'est une licence qui est absolument énorme. C'est la GameCube qui ramène ça en Occident. Donc, toutes les variantes de Mario, Mario Power Tennis, Mario Football, Mario... tout ça, les... Moi, mon premier jeu que j'ai eu de ma vie, c'était Mario Smash Football. Mais parler de Mario, je crois en anglais, c'est Mario Strikers. Parler de Mario Strikers à, je sais pas, à des Américains, ils pètent un câble. C'est un jeu, c'était un jeu de ouf. Bref, c'est une console spéciale, je veux dire. Faire de. Par exemple, le fait que le jeu de lancement, ce soit un jeu Luigi. C'est des trucs comme ça, genre. Il y a que sur GameCube, vraiment. C'est une console vraiment de ouf. Tu peux avoir voilà, des jeux comme ça, mais derrière, il y avait des jeux vraiment. Hyper, voilà, comme des jeux de survival horror, hyper vénère, genre Eternal Darkness. Voilà, c'est la GameCube, dans mon cœur, elle est numéro uno. Mais dans ce classement, voilà, forcément, il y avait le Radmaré PS2, il y avait le fait que c'est une console qui a été sacrifiée, mais elle est toujours dans nos cœurs. Voilà, merci Nintendo, merci la GameCube. Je pense qu'on peut passer en numéro 7.
Ouais.
À toi l'honneur, vas-y.
Alors, je regardais un truc, ouais, pour être sûr de pas dire une bêtise, parce que moi, la numéro 7, c'était la Mega Drive.
Et j'ai la Mega Drive en numéro 7 aussi, ok.
Nom de Dieu, okay, la run, elle est...
Vas-y, tu commences, okay. Parce que j'ai parlé trop longtemps, là.
En vrai, pour moi, du coup, c'est une console, déjà, c'est la console qui s'est le mieux vendue de Sega, avec 40 millions d'exemplaires, ouais, exactement. Ça, je vérifiais le chiffre. Et, en fait, moi...
Elle est sortie quand?
Elle est sortie entre 88 et 90. Je pense 88 au Japon.
Voilà, 29 octobre 88 au Japon. Okay. Et il va falloir attendre de 90 pour qu'elle arrive en France. Voilà,
ok.
Pour vous illustrer.
Et en vrai, pour moi, il y a un peu ce truc, genre. Je crois que ouais, Sonic, c'était sur la Master System.
Ouais.
Mais c'est sur Mega Drive que vraiment il Sonic se met à respirer. 2. Voilà, Sonic 2, tout ça. Ou vraiment là, le petit hérisson. En fait, pour moi, c'est tout ce qu'on aime chez PlayStation. On le doit à la Mega Drive. Genre sur l'image de marque, sur le marketing. Genre, c'est pas pour les enfants, c'est une image un peu plus cool, un peu plus branchée. Je trouve que c'est le marketing qui va influencer Sony et du coup qui influence aussi le jeu vidéo. Et puis surtout son catalogue aussi. Genre, du coup, ok, Sonic, mais Streets of Rage, il y a eu des jeux genre Shinobi, Gunstar Heroes, Phantasy Star 4, que je connais pas trop, mais qui est vraiment classique.
Oh, ouais,
moi, il y a un jeu que je trouve qui est un des plus beaux jeux 2D jamais fait de tous les temps, qui est Aladdin. Et genre, il est sorti sur Mega Drive, c'est une exclu Mega Drive. Qui après, je crois, a eu des portages, mais. Qu'est-ce qu'il est beau et bien animé.
Moonwalker.
Oui,
Michael
aussi.
Jackson. Ça, c'est pas incroyable, mais ça a trop de flow.
Et en fait, c'est ça, c'est une console qui, techniquement, avait des couleurs magnifiques, avait apparemment aussi, en termes de sonorité, des meilleurs sons et tout, via de la NES, je crois, ou de la Super NES.
Non, la Super NES, c'est un meilleur son.
La Super NES, c'est un meilleur son.
Parce qu'il y avait le processeur.
Par rapport à la NES, du coup, parce que c'est entre les
deux. Ah oui, voilà.
Voilà. Et du coup, je trouve que c'est une console qui est vraiment le côté un peu noir, plastique, un peu shiny et tout. Je trouve que c'est la console cool. Genre, elle est vraiment cool, et sur la génération vraiment 2D encore et tout, elle est... Ouais, moi,
mais au-delà de ça, genre, vis-à-vis du marché international, ça a tout changé vis-à-vis de l'histoire du jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire, c'est une console qui, en termes de popularité, aux États-Unis, là-bas, ça s'appelait la Genesis. Il y avait pas de, on parlait pas de Mega Drive, on parlait de Sega Genesis. Oui. Et là-bas, ça a été un raz-de-marée, c'est-à-dire, la console était vraiment, elle était considérée comme cool, c'était vraiment le marketing avait super bien marché là-bas, mais aussi, c'est la guerre qui lance la guerre des consoles, en fait. Genre, vraiment, c'est avec cette console-là où la rivalité Nintendo-Sega, prend place. Et ça, historiquement, c'est un truc de ouf, parce que la guerre des consoles, on en a parlé, on en parle encore aujourd'hui de manière assez stupide, parce qu'il n'y en a plus vraiment, mais on a eu le droit à la guerre des consoles, voilà, on a eu Saturn PS1, guerre des consoles, ensuite on a eu Sony versus Xbox pendant, même encore aujourd'hui on en parle, mais la vraie guerre des consoles, c'est Nintendo Sega.
Le bleu contre le rouge, ouais.
C'est bleu-rouge, c'est Mario contre Sonic, c'est vraiment, cette console-là, elle a vraiment apporté une nouvelle, un souffle nouveau aux jeux vidéo, en fait, vraiment. Donc c'est la meilleure console de Sega. Ouais, elle est folle. Et puis Sonic, putain de merde, c'est un truc de ouf.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
On passe à la 6. Je commence.
La 6ème, je vais commencer parce que moi je vais pas en parler longtemps. Parce que moi j'ai mis la NES du coup en 6ème.
T'as la NES en 6ème.
Moi la NES je l'ai mis en 6ème. Je vais pas redire ce que t'as dit, mais voilà. Parce que pour moi elle posait les bases du gameplay moderne. Elle avait marqué des millions de joueurs avec sa simplicité et son héritage culturel. Et surtout, ouais, bah, le catalogue a vu naître les plus grandes licences du jeu vidéo. Il y avait un truc là où genre, je trouve que c'est la console qui en effet est pas la. Tu sais, ces licences là elles ont un peu vieilli si on prend les premières itérations de Zelda, Metroid ou autre. Mais juste me dire que ce nom là il apparaît sur des jaquettes.
C'est tellement ouf, en fait, ouais. Ça fait trop la différence.
Que j'étais en mode, vas-y, je la mettais, moi, plutôt à 6ème. Et toi ?
Eh ben, en 6ème, je vais pas en parler longtemps, parce que je pense que c'est une console dont tu as plus tard, forcément plus tard dans ton classement, mais tu vas en parler surtout beaucoup, parce que en 6ème place, j'ai la Xbox 360 de chez Microsoft. et vraiment, ça a été dur, parce que de base, elle a été 5ème, et vraiment, ça a été vraiment compliqué de la passer, la 360, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, moi j'avais eu la Wii, j'avais eu la PS3 qui n'est pas dans mon classement pour des raisons évidentes. mais la 360 en fait, du coup voilà, je l'ai eu pendant un petit moment. Je me souviens, j'avais échangé ma PS3 avec mon cousin pour qu'il puisse jouer à The Last of Us. Du coup pendant genre, je crois 6 mois et tout, j'avais une 360 chez moi et du coup j'ai rattrapé vraiment un catalogue vraiment riche de la 360. C'est une console, voilà, sortie le 22 novembre 2005 aux États-Unis. Va falloir attendre décembre pour l'avoir en Europe et au Japon. C'est 85 millions d'exemplaires vendus. C'est la console la plus vendue de Microsoft, donc c'est assez ouf. C'est la 7ème console de salon la plus vendue de tous les temps. Moi, les plus vis-à-vis de cette console, déjà, c'est la manette. Il y avait un côté de... Moi, je me souviens, quand je jouais à un FPS, il me fallait une manette de 360, c'était beaucoup mieux. Mais surtout, il y avait beaucoup de cheats qui étaient disponibles sur la 360 qui avaient nulle part ailleurs, surtout vis-à-vis du marché indépendant. Vraiment, la 360... Là, on était dans une période où le PC explosait.
Je vais dire tous mes points là, mais oui.
Ah non, mais du coup, je vais juste le noter là. Vraiment, il y avait. Moi, je me souviens de vraiment du Xbox Arcade. Moi, c'est un truc que, comme je vous dis, j'avais pas la 360, mais je me souviens de ce truc, de tous ces petits jeux comme Battle Block Theater. Mmh. Plein de petits jeux que je jouais chez mon cousin. Chez mon cousin Riyad, shout out. Vraiment, la 360, c'est. Même vis-à-vis de la culture online, vraiment, c'est une console où vraiment cette génération-là, cette septième génération, elle est marquée par. Vraiment, l'arrivée d'Internet dans les consoles, le fait d'être connecté constamment. Et la 360, elle représente ça, vraiment le Xbox Live, ce genre de choses. Je ne l'ai pas plus haut parce que je trouve que, malheureusement, elle subit les problèmes de cette génération-là. C'est-à-dire, le hardware était un peu bancal. C'est-à-dire, genre, vraiment, il y avait un côté de... C'est une génération où la PS3 360 avait un hardware clairement de moins bonne fiabilité, je trouve, que la génération précédente et la génération qui la succède. Mais derrière, ouais, c'était un manquable vraiment à cette époque, même si j'avais la PS3 et l'intérêt c'était parce que le online était gratuit, mais tout se passait sur 360 à l'époque. C'est-à-dire, ok, en termes de first party, PlayStation discutait, mais tous les rendez-vous étaient sur Xbox, tous les jeux éditeurs tiers tournaient mieux sur Xbox, Skyrim, ce genre de jeu-là. Les 4 Dead, c'était que sur Xbox à cette époque. Non, c'est une console spéciale et elle mérite sa 6ème place. Mais en fait, les consoles qui vont être au-dessus, il y a un step. En fait, là, vraiment, quand je vais rentrer dans mon top 5, il y a un écart entre la 5ème et la 6ème. Et voilà.
Ok.
Du coup, t'as donné ta 6ème place, toi, c'est bon ?
Ouais, moi, c'est okay. Moi, 6ème, c'était la NES.
Du coup, on peut enchaîner avec la 5ème, on va voir si on est candidat ou non.
Je pense pas.
En 5ème place, qu'est-ce que t'as ?
Moi, j'ai mis la PlayStation 1.
Ok, je l'ai plus haut.
Ouais, non, je l'ai mis 5ème. Et toi, t'as mis quoi, du coup ?
J'ai la Super Nintendo.
Je peux la spoiler, moi elle est quatrième.
Ok.
Moi la Super NES elle est quatrième. Donc vas-y, tu veux commencer ou tu veux commencer sur la PS1?
Comment sur la PS1? Parce que c'est okay. Très bien, je vais en parler beaucoup quand même. Donc,
En vrai, je vais faire court. Genre, c'est une console. En fait, pour moi aussi, si je vais faire court, c'est qu'on en a parlé dans l'épisode sur la PlayStation. On a parlé beaucoup PS1, PS2, de consoles cultes. La PS1, voilà, c'est l'arrivée de la 3D dans le salon. Là, oui, c'était vraiment un truc réservé aux bandes d'arcade avant ça. Ou à des cartouches un peu spéciales. Ouais, la PS1, c'est une console légendaire, c'est vrai. Mais moi, si elle est entre guillemets que cinquième, c'est parce que du coup, en fait, en face, du coup, il y avait la Saturn et la Nintendo 64. Et je suis en mode, ah, genre, c'était quand même aussi deux belles consoles. Et il y a un peu ce truc où, genre, je trouve que là, c'était des propositions où même si la PS1 a roulé un peu là-dessus, c'est pas non plus, ça n'a pas encore non plus été l'écart comme avec la GameCube, Xbox, où on sait que la PS2 là, a vraiment tout atomisé. Je me dis, c'était une belle génération. Je trouve que chaque console avait beaucoup d'arguments, en fait, pour soi. Et c'est vrai que moi, je trouve la PS1 est incroyable. C'est, ouais, c'est son catalogue de jeux. Son image cool, voilà, le marketing, il est axé là-dessus, son lecteur CD, rien que ça, c'est ouf. Et voilà, et après, il y a des jeux, moi, si je devais en citer quelques-uns qui vraiment sont des jeux que j'ai envie de parler, bah c'est, ouais, genre, il y a FF7, déjà, Chrono Trigger, Driver, Gran Turismo, évidemment, genre, le jeu qui voulait me faire, moi, acheter une PlayStation 1 à l'époque, Resident Evil, du MGS, tout ça. Ouais, c'est une console, vraiment, son côté un peu sleek, gris et tout. Elle est magnifique, mais moi je la mets cinquième parce qu'il y en a d'autres que j'estime avoir un truc en plus de au-dessus.
T'as la Super Nintendo dans ton classement, j'espère.
Ouais, du coup, moi elle est
quatrième. Elle est quatrième, ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Bah, du coup, je vais essayer d'aller vite, mais vraiment, c'est.
Vas-y, comme ça, moi j'en parlerai pas des masses.
C'est une console sortie en novembre 90 au Japon. Mm-hmm. Va falloir attendre août 91 pour l'avoir aux États-Unis et 1992 pour l'avoir en Europe. C'est quasiment 50 millions d'exemplaires vendus. Et que dire, genre ça sort quelques années après la Mega Drive. Déjà rien qu'on va commencer par la manette. Cette manette elle fait un truc de fou que fait pas d'autres consoles. C'est la première console où on a une manette où on a une croix analogique et quatre boutons. Ça en termes d'hardware ça va genre toutes les consoles sont comme ça aujourd'hui en fait. Genre,
les manettes, ouais, en
toutes
boutons.
Les manettes elles ont au moins une croix analogique. Ou un joystick, et quatre boutons. C'est vraiment... C'est, déjà, rien que ça, c'est un élément, c'est la Super Nintendo qui le fait. C'est la première affaire, du coup, il faut lui donner son, ouais. ce truc. Mais surtout, en termes de catalogue, vraiment, la Super Nintendo, bah, je vais citer des titres, mais Super Mario World, F-Zero, Street Fighter 2, Final Fantasy 4, Donkey Kong Country 1 et 2, Axelay, Super Mario Kart, Super Metroid, Secret of Mana, Chrono Trigger, Zelda Link to the Past. Tous ces titres-là, ils étaient déjà présents sur la NES. Mais là, on a une forme d'explosion, une sorte d'apothéose de tous ces titres-là, comment ils viennent exploser sur Super NES. Mais vraiment, la Super NES, elle prend ce que faisait la NES, mais elle le décuple.
Ouais,
vraiment, elle le décuple. Et surtout, un truc que fait la console, que moi, je trouve encore incroyable aujourd'hui, vis-à-vis du son. Le processeur sonore, du coup, qui a été fait par Ken Kutaragi, de chez Sony, le processeur sonore SPC700. Allez écouter les musiques de FF4, allez écouter les musiques de Secret of Mana, mais c'est symphonique.
Ouais.
Mais on est sur une console de 1990 et avoir un son pareil qui sort de ta console, mais c'est ça, c'était un truc de ouf. Vraiment, le fait d'avoir vraiment, voilà, allez écouter les musiques de FF4 là sur Super NES, c'est une console absolument dingue. Avec des jeux vraiment... moi, j'ai eu la chance de les faire via l'émulateur qui était disponible sur Switch. Mais quand j'ai joué à Donkey Kong Country 1 et 2, mais visuellement, c'était exceptionnel. Ouais. C'est une sorte de fausse 3D, cette 3D retranscrite en deux dimensions par Rare. Mais c'est, la Super NES, vraiment, c'est... Comme là, on rentre dans un stade où vraiment, entre la 5e et la 6e place, pour moi, il y a une distance. Et c'est que des consoles incroyables. Vraiment, c'est... pour aller les chercher, ces consoles-là, ça va être très compliqué. Vraiment, c'est... Voilà. La Super NES, 5e. Merci. Waouh.
Pour enchaîner du coup avec la 4e place, c'est vrai, dire un peu le mot de la fin sur la Super NES, vu que moi, c'était ma 4e. Ouais, c'est qu'en fait, pour moi, c'est l'âge d'or du jeu 2D. Parle de jeu de plateforme, si on parle de jeu vraiment, du coup, avec un scrolling vertical... horizontal, pardon. Ouais, c'est la Super NES. Il n'y a pas d'autres consoles qui arrivent à encapsuler en termes de graphisme, en termes de sonorité, en termes de maniabilité. Ce genre de jeu. Et je pense que depuis, tous les jeux qui ont voulu faire un peu la même chose, ils viennent puiser dans ce catalogue-là. Ils viennent s'inspirer de la Super NES et de son catalogue de jeux. Donc en fait, c'est la console parfaite pour ce genre, pour ce type de titre. Et du coup, là, c'est vraiment la console où, en fait, son catalogue transcende en fait la console. Genre, où la console transcende le catalogue, comme vous voulez. Mais voilà, c'est un genre dont on ne peut pas parler sans parler de la Super NES. Du coup, c'était ma quatrième place. Du coup, voilà, je fais court, puisque tu en as déjà parlé. Toi, t'as mis quoi en quatrième ?
En quatrième console, j'ai la PlayStation 4 de chez Sony. La PS4, c'est quoi ? C'est 117 millions d'exemplaires vendus. C'est la troisième console la plus vendue de tous les temps, derrière la Switch et la PS2. Elle est sortie en novembre 2013, et je pense que, en fait, le truc avec la PlayStation 4, je pense que quand on va penser dans le futur, là, je pense que même maintenant, quand on pense jeux vidéo entre 2010 et 2020, on pense PlayStation 4. Vraiment, on pense PlayStation 4. On peut penser Switch. Le problème de la Switch, c'est que elle sort en 2017. Et vraiment, ça, la pénalité de la Switch, vraiment, elle est post-2020, ce genre de choses. Vraiment, quand on pense jeux vidéo 2010 jusqu'à 2020, la mascotte, c'est la PS4, en fait. Et vraiment, en termes de fiabilité, c'est peut-être... C'est un peu une sorte de PS2-2, en fait. Vraiment, il y a un côté de la PlayStation 4. Encore aujourd'hui, elle est viable, en fait, techniquement. En plus, c'était une console qui, techniquement... C'était pas un monstre de puissance, loin de là, vraiment. Il y avait juste ce côté de... C'était une console vraiment hyper fiable, hyper simple à développer dessus. Je veux dire, et derrière, elle englobe avec elle un catalogue vraiment éditeur tiers, first party, mais qui est... Mais... Là, il met 20-0 à celui de la PS5, vraiment. Il est... La PS4, c'est un truc de ouf. Je veux dire, voilà, Last of Us 2, Bloodborne, Nier Automata, Resident Evil 7, Red Dead Redemption 2. C'est vraiment une console qui est ultra vaillé en termes de proposition. Je trouve qu'elle englobe ce qu'il y a de mieux dans cette génération, qui est du coup la 8e génération de consoles. Une console d'une fiabilité folle. Et en fait, les défauts de la PlayStation 4 en tant que telle, en fait, bah, ils sont dus au contexte dans lequel elle s'inscrit, en fait. C'est-à-dire, bah, très souvent, bah, des jeux qui sont pas finis, beaucoup de jeux à service, ce genre de choses, mais elle arrive vraiment à se définir par un catalogue first party légendaire, vraiment. Les exclus disponibles sur PlayStation 4 sont vraiment incontournables. Et je pense que dans le futur, on reverra cette génération vraiment, voilà, par des jeux narratifs qui s'apparentent beaucoup au cinéma. Et en fait, bah, la PS4, ce sera la mascotte de ce jeu vidéo-là, en fait. Ce jeu vidéo 2010-2020, c'est la PS4 qui l'englobe. C'est une console fiable techniquement, qui vraiment arrive à raser ce qu'a pu faire la PS3 en termes, voilà, de bullshit technique, tu vois. Et... Voilà, c'est une console, vraiment, je pense que là, on se rend pas bien compte, mais c'est un bijou, cette console, la PlayStation 4, merci.
Bah là, on était sur le numéro 4, c'est ça ?
C'est ça.
Du coup, je vais faire, ouais, une petite correction, comme ça va être plus simple. Parce qu'en fait, ouais, donc je m'étais trompé dans mon classement, j'ai mis 11 consoles, mais en fait, il y en a deux que j'arrivais pas à départager. Et en fait, ouais, du coup, c'était la Super NES et la Xbox 360, que je mettais en quatrième.
Et du coup, tu mets quoi en quatrième ?
Du coup, en quatrième, je vais pas choisir, genre, fuck it, je m'en vais écouter mon classement, je mets deux. Parce que, à la base, si je devais si je devais l'ajuster, en fait, j'aurais juste dégagé la Nintendo 64. Mais du coup, pour rester sur le classement, je mets les deux ensemble.
Ok.
Du coup, la Xbox 360, on en a parlé. Pourquoi est-ce que moi, je la mets en 4ème ? C'est parce que je trouve que déjà, c'est le catalogue le plus fort de chez Xbox. Genre que ce soit par rapport à Halo, avec Halo 3, ODST, Halo 4, Gears, qui vraiment genre adopte genre Gears 1, 2 et 3, trilogie de fou, les Forza qui débarquent aussi, vraiment avec genre Forza 2, 3, enfin, c'est des jeux de fou. Les Forza Horizon. Il y a eu les Fables, il y a eu Alan Wake, Dead Rising. Et du coup, pour moi, en fait, c'est parce que si je l'ai mise quatrième, c'est parce que c'est la meilleure console de la 7ème génération. C'est qu'il y a la Wii, c'est vrai et tout, qui est révolutionnaire, mais s'il y avait une console, comme l'a dit un peu Swill, où il fallait l'avoir pour jouer à des jeux même multiplateformes, dans les meilleures conditions possibles, genre Red Dead Redemption ou GTA 4, ouais, c'était sur 360. Et à côté de ça, bah, donc, il y a la proposition de jeux japonais, pour séduire le marché, du coup, le marché japonais et nippon. Et du coup, t'avais des Lost Odyssey, des jeux comme ça. T'avais l'arrivée, donc, ouais, comme tu l'as dit, des jeux indépendants avec le Xbox Live Arcade, pareil avec le PS Store après sur PlayStation. Mais je trouve que c'est une console qui arrive à faire la transition de la génération d'avant avec celle qui va venir ensuite, PS4 et tout, de façon fluide, entre guillemets. Mm-hmm. Et elle a beaucoup de défauts, genre le Red Ring of Death, j'en ai une littéralement dans mon salon là qui.
Ah, mais c'était.
Qui traîne à cause de ça.
Génération de console, c'était une galère.
Comme t'as dit, voilà, niveau hardware, c'était moins.
Moins fiable.
Moins fiable. Mais ouais, le pad était vraiment fou. Toutes les manettes maintenant s'inspirent du pad de la 360, que ce soit la celle de la Xbox One ou de la DualShock 4 de la PS4. Le seul truc, c'était le manque de lecteur Blu-ray, pareil. Mais je me dis, le DVD, c'est un des formats qui est encore assez populaire. les gens n'ont pas non plus encore fait la transition vers des lecteurs bourrés tels qu'on l'a fait auparavant. Donc, pour moi, elle est quatrième avec la NES. Avec la SNES, pardon. Troisième.
Qu'est-ce que t'as en numéro 3, Ulysse?
Moi, c'est la PS4.
Là, c'est un truc de ouf que t'es genre la PS4 plus haut que moi. Ouais. Moi, je trouve que c'est un truc de dingue.
Si je veux faire court, pourquoi la PS4?
Mais attends, je veux que je donne mon troisième. Parce que du coup, en numéro 3, moi, j'ai la PlayStation 1. C'est pour ça, en fait. Et de base, la PS4 était troisième. Mais en fait, dès que j'ai fait énormément de recherches cette année, en fait, sur la PS1, c'est peut-être la console dont j'ai le plus bouffé de contenu, ce genre de choses. Parce qu'on a fait un épisode sur PlayStation, où j'avais vraiment fait un long moment où je parlais de la PlayStation 1. En fait, moi, le truc avec la PS1, c'est... Mon take, c'est quoi? C'est, je pense que c'est la console la plus importante de tous les temps, en fait. La PS1, c'est un take vraiment osé. Mais en fait, elle a ce truc de... Elle est dans la lignée... Pour moi, elle est dans la catégorie de la NES et la Super NES. Tant, en fait, c'est des consoles qui changent tout par leur influence, en fait. Vraiment, c'est des consoles vraiment qui... Ouais, genre, le catalogue de la PS1, il est pas aussi incroyable que celui de la PS2, comme la PS4, ce genre de choses, mais... C'est une console qui change tout, en fait, parce qu'elle a une chance, c'est quoi? C'est qu'elle s'inscrit déjà dans, moi, ce que je considère être la génération la plus importante, c'est-à-dire la cinquième génération. Cinquième génération, donc Saturn 64 PS1. Pourquoi c'est la génération la plus importante? C'est parce que c'est le passage du 2D à la 3D. Et la meilleure console de cette génération, c'est la PS1. Donc, au bout d'un moment, 1 plus 1 égale 2. Moi, franchement, dans cette génération-là, c'est la meilleure console. C'est celle qui réussit le mieux à faire la transition 2D-3D, selon moi. Elle signe vraiment une transition folle vis-à-vis de l'arcade, en fait. C'est-à-dire de l'arcade vers la console. C'est la PS1 qui initie cette évolution du JV vers les consoles, là où Sega continuait vraiment à croire en un système qui serait partagé entre arcade et console. Mais la PS1, pour moi aussi, elle déclenche vraiment un âge d'or créatif vis-à-vis des jeux, en fait. Vis-à-vis des développeurs, où plusieurs genres, en fait, ont pu vraiment évoluer, où beaucoup de cheats sont devenus des références, en fait. Metal Gear, FF7, Silent Hill, Ridge Racer, Gran Turismo. À la fin, voilà, tout ça, ça fait que la console a plus de 100 millions d'exemplaires vendus. Et tous ces jeux-là, en fait, ils avaient vraiment des ambitions différentes que des jeux d'arcade. Je dis pas que... Je veux pas dénigrer les jeux d'arcade, mais la PS1, en fait, elle embarque avec elle, voilà, tous ces titres-là, avec des ambitions qui sont beaucoup plus fortes sur l'aspect narratif, sur la mise en scène. Elle met en place les graines qui vont fructifier après chez la PS2. Mais pour moi, vraiment, la PS1, c'est la console. Vraiment, c'est la console. Pour moi, ouais, ok, il n'y a pas le catalogue qui suit, mais si elle avait un catalogue équivalent aux consoles que j'ai au-dessus, elle serait... tant son influence est folle, elle serait numéro 1, voilà. C'est-à-dire, voilà, là, en fait, dans mon top 3, on rentre dans un range où, si tu dis que cette console est la meilleure de tous les temps, tu sais, j'ai pas de soucis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Allez, vas-y, PS4, let's go. Putain, c'est ouf.
Moi, la PS4, c'est parce que plus le temps avance, plus le temps donne raison, en fait, à la console. C'est qu'en fait, je pense que, voilà, la PS4, c'est la meilleure console de salon de la 8e génération. Du coup, elle a une longévité folle. Là, ça fait plus de 12 ans qu'elle est sortie. Et ouais, en fait, c'est une console qui, en termes de hardware, moi je trouve qu'elle est pas très originale. C'est ça qui est amusant.
Ouais.
C'est que si j'ai mis la 360 un tout petit peu derrière, alors que dans mon cœur elle serait un peu devant et tout, c'est que en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on prend 360 PS3, les stratégies se sont inversées avec la PS4 et la Xbox One. C'est que la 360, c'était une console pour les gamers. Pour les gros bras, vous prenez Gears, c'est vraiment du jeu vidéo qui joue vidéo bien. Et la PS3 est en mode non, mais c'est plus le lecteur Blu-ray qu'on mettrait dans le salon, ouais, qui va être sous la télé. Un peu la même logique avec la PS2, mais en moins réussi parce que ils se sont plus cassés la gueule sur comment ils ont voulu jouer l'accès un peu cross-média et multimédia. Et là où la PS4 s'est dit, ok, on fait une chose bien, on va se réaxer là-dessus, c'est les jeux vidéo. Donc on va faire une manette, la DualShock 4, qui est quand même une excellente manette.
Ah oui,
avec le pad tactile, les gâchettes aussi qui s'inspirent là du coup de la 360. Elles sont super, elle est quand même assez agréable. Toujours la batterie, donc pas besoin des piles à la con qu'il y a sur la 360 ou autre, ou sur la Xbox One. Et du coup, juste la façon dont elle s'est marketée, avec le fait de prêter ses jeux, son catalogue de jeux comme la Diswheel, où genre, ouais, il y a du Bloodborne, c'est que sur PS4, toujours. Les Uncharted 4, Lost Legacy, The Last of Us 2. Et en fait, même ça, c'est que le The Last of Us Remastered, on n'a pas mis la PS3, mais c'est aussi pour ça que moi j'y ai pensé, c'est que The Last of Us Remastered fait tourner The Last of Us de façon optimale. La version vraiment originale, avec les mêmes graphismes, mais en plus fin, avec un bon framerate. C'est pas le remake, c'est très bien. The Last of Us 2, voilà, c'est parfait. Il y a Death Stranding, il y a du Ghost of Tsushima, il y a du Spider-Man PS4. Miles Morales aussi sur PS4. Enfin, et la plupart des exclus, même God of War et God of War Ragnarok, sont sur PS4. Et ils tournent bien. Donc, c'est une console qui, je trouve, c'est presque de la magie noire qu'en fait, ils ont fait une sorte de hardware qui ne vieillit pas. Où il est vraiment le côté de, c'est l'entrée pour l'ère 3D qu'on est encore en train de vivre. Et c'est ouf de se dire que bah, maintenant, avec une Switch 2 ou autre, on est à peu près sur l'équivalent de ce genre de performance. Et on se dit, ouais, ça vieillit pas si mal en fait. C'est encore une console qui peut te faire
en
des claques visuelles.
En termes de longévité, ouais. Donc, Tsushima en sortant ouais. En 2020, ça pousse.
Donc pour moi, cool, c'est ce qui fait que la PS4, ouais, c'est une console incontournable. Et que si actuellement, un mec avait pas trop de thunes, il me dit, ah, quelle console acheter, prends une PS4.
Voilà, ça coûte que dalle. Ouais. C'est un peu la PS2, hein. Vraiment, c'est en termes de ça, longévité, ouais. C'est... Numéro 2, je pense qu'on est d'accord.
La Nintendo Switch.
Évidemment. Ok, bah oui.
La Nintendo Switch.
Pendant un moment, je l'avais 3. J'avais la PS1 en 2. Okay. Et après, j'ai commencé à réfléchir à la Switch et je me suis dit... Ah ouais, mais en fait...
J'ai mis numéro 2.
Mais le pire, c'est qu'il y a un monde où elle pourrait même peut-être aller chercher la 1. Le problème, c'est que là, bah, sa vie est un peu finie parce qu'il y a la 2 qui est sortie. Mais... Par où commencer déjà, c'est une console, on va commencer par les bases. Sortie en 2017, 150 millions d'exemplaires vendus. À ce moment-là, c'est pas encore officiel, c'est pas encore la console la plus vendue de tous les temps, mais je pense que...
Il y a moyen qu'elle
ouais, là, d'ici, je pense, quelques années, elle va aller chercher la PS2. En fait, elle redéfinit totalement le gaming moderne. Vraiment, là, on se rend pas compte, mais il y a des problématiques de fou envers les consoles. Vraiment, en termes de consoles de salon. Et Nintendo a créé la solution, je pense. C'est peut-être pas quelque chose dont je suis pas forcément ultra d'accord avec cette solution-là. C'est pas quelque chose qui me plaît énormément, cet aspect bah, du coup, hybride qu'apporte la Switch. Mais c'est quelque chose vers lequel on va. Et du coup, je pense que la Switch initie peut-être l'un des renouveaux les plus importants de... Ça va sans doute être le renouveau le plus important de l'histoire du gaming moderne, en fait. Vraiment, cet aspect hybride, là, sans la Switch, il n'y a pas le Steam Deck. Asus ne se met pas à faire des consoles, des roguelike. PlayStation ne va pas sortir là bientôt. Ce n'est pas officiel, mais c'est un secret de polichinelle.
Même le PS Portal.
Voilà, la Switch a créé une nouvelle manière en fait, de jouer aux jeux vidéo. En fait. Mais, donc déjà, ça, c'est déjà pas mal. Mais derrière, il y a un catalogue.
Ouais.
Et pour moi, c'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, ah là oui, c'est dommage, elle prend pas assez bien, elle englobe pas assez de titres vis-à-vis voilà, de la sphère indépendante, par exemple, bah la Switch.
Ah oui, en termes de jeux indés.
Voilà, genre c'est. Parce que déjà, en termes de catalogue, il y a déjà tout dessus. C'est-à-dire, il y a tous les. Il y a déjà tout Nintendo, c'est-à-dire tout ce patrimoine-là, on le retrouve, voilà, les Zelda, Mario, tout ça. C'est un secret pour personne. On va même pas passer dessus. Mais derrière, ce que fait la Switch vis-à-vis de la sphère indépendante, c'est un truc absolument dingue. Le eShop, je veux dire, c'est une bibliothèque, mais c'est franchement, on n'a jamais vu ça. Je sais pas si tu veux.
Bah, en fait, c'est ça, c'est que dans son catalogue de jeux, au début, moi, je ne savais pas trop comment la classer entre premier et deuxième. Je l'ai mis deuxième, pas première, mais j'ai hésité. Hein. Parce qu'en effet, comme tu dis, elle a redéfini un peu le concept de la console de salon, tout simplement. Le concept hybride, portable et tout. En soi, elle a redonné vie au parc de consoles portables. Genre la PSP, ça n'existait plus. Les DS, ça pétait en perte de vitesse. Enfin, toutes les consoles, en fait, les consoles portables, on se disait, ah bah c'est grâce à une expérience diminuée d'une console de salon. Ça faisait que, ok, tu l'avais dans ta poche comme une Game Boy, mais entre guillemets, voilà, si vous voulez une vraie expérience gaming un peu premium, fallait passer sur une console de salon. Et la Switch, elle te dit, tu vas pouvoir jouer à ton Zelda Breath of the Wild en portable. Tu vas pouvoir jouer à Mario Kart 8 Deluxe avec tout le contenu additionnel et tout ce qu'il faut. En portable, tu vas pouvoir jouer à Metroid Prime, même si le remaster est sorti il y a que 1 ou 2 ans, sur ta Switch, tu peux l'avoir dans le train et tu peux y jouer. Et je trouve que c'est au-delà même du côté portable, c'est l'idée que genre, vous prenez les Joy-Con, ça vous fait 2 manettes. Moi, c'est un truc où, encore maintenant, ça me casse le cerveau de me dire, je ressens un pote, hop, tu retires ça de la manette sur les côtés.
Non, mais là, il n'y a que Nintendo en fait. Vraiment, il n'y a que Nintendo.
C'est hyper ergonomique. Et c'est pour ça que pour moi, la Wii, elle a ce rapport, comme tu dis, avec le motion control qui est hyper important. Mais en fait, la Switch, elle vient tellement perfectionner ça, à te dire, ok, tu peux le prendre. Vois ton truc, son Wii Sport est peut-être un peu moins bien, mais à la fin, c'est la quintessence de ce que a toujours essayé de faire Nintendo en termes d'ingéniosité et d'inventivité. Et leur catalogue de jeux, au-delà du coup, du côté comment ça s'appelle, portage et rétrocompatibilité et tout, on peut se dire, ok, c'est un argument, mais les autres consoles les avaient. Elle a des jeux qui, pour moi, sont quand même incroyables, genre les Mario Odyssey Wonder, les Xenoblade Chronicles 3, les TOTK, au-delà même de Breath of the Wild, Metroid Prime 4 qui va arriver, Pikmin 4, Animal Crossing, c'est tellement de jeux qui sont genre marquants à leur manière ou qui sont juste hyper innovants. Et à côté de ça, ouais, les jeux indés, moi, il y a aussi un rapport que je trouve fou, c'est le nombre de jeux qu'on estime étant comme des GOTY ou des jeux of all time, genre des GOAT. Genre, moi, c'est tout con, mais là, je revoyais que Disco Elysium est sur Switch. Vous pouvez jouer avec Kim Kitsuragi dans le métro, dans le train, vous faire votre petite session, et il n'y a pas de souci. Pareil avec Balatro, pareil avec plein de titres où je me dis, il marche très bien sur une Switch de base. Il y a des jeux qui sont à l'étroit sur Switch. On sait que le hardware de la Switch, ça reste une petite pomme de terre qui est là, a du mal. La Switch 2, elle vient un peu faire du bien là-dessus. Mais c'est l'équivalent d'une Xbox 360 PS3, enfin, c'est même un petit peu au-dessus. Et ça reste des consoles où vous avez tout le catalogue 2D qui est venu auparavant et le catalogue 3D qui est eu dessus. Foncièrement, elle serait capable de faire tourner des jeux style The Last of Us ou des Tomb Raider Remaster et tout. Assez bien, il y a Assassin's Creed dessus. Bon, les Batman Arkham City et Asylum, ça va, Night, c'est galère. Mais je trouve que c'est une console qui est quand même vraiment une proposition qu'on a...
extrêmement fiable.
Ouais.
Qui répond à tant de problématiques. Et je pense que ouais, l'avenir, il est dans la Switch.
Mm.
Mais je pense que... ouais, je pense que c'est clair... en numéro 1, je pense pas, Ulysse aussi là. Bah, on a la PlayStation 2.
La Ouya. Ouais,
la Ouya. Et non.
Et non, 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 c'est...
pour ouais. moi, ça a été rapide, vraiment. J'ai commencé mon classement, j'ai fait bon, numéro 1, PlayStation 2, on passe au reste. Ouais, et il y a eu voilà, des débats 2, 3, 3, 4, 5, 6. Mais ce qui est sûr, c'est que la PlayStation 2, elle est jamais sortie de mon numéro 1. La Switch pourrait peut-être discuter, mais ah là, il y a déjà la Switch 2 et faudrait peut-être laisser du temps à la Switch, avoir du recul peut-être, voir a posteriori.
C'est aussi un catalogue de jeux fou. Moi, je m'étais noté, tu vois, genre, en fait, je m'étais noté plus de 3800 jeux sur la console, il y a donc plus de 2000 jeux PAL, donc valables sur la console européenne, en Europe et tout. Et ouais, c'est juste ça, c'est un catalogue qui est intemporel. En fait, genre, tu sais, limite, on va faire du name dropping en mode ouais, GTA San Andreas, tel autre jeu, enfin.
Non, mais on peut en citer un milliard. Genre, c'est. En fait, je sais même pas pour commencer. Bon, on va mettre les bases. C'est une console qui sort en mars 2000 au Japon. Va falloir attendre octobre 2000. Octobre 2000.
Ah, c'est octobre 2000, ok.
Ouais, ouais, octobre 2000 en Amérique et le 24 novembre 2000 en Europe.
Ok.
Bon, les chiffres peut-être un peu boostés, mais on recense 160 millions de ventes. En vrai, c'est pas si déconnant.
Ouais, je voyais 155 millions, mais ouais.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pelé, c'est pelé. En fait, il y a le truc de... c'est, ça paraît tellement évident, mais comment présenter là? En fait, c'est... par exemple, j'ai une stat qui est incroyable. Voilà, voilà. La barre des 100 millions d'unités vendues, elle a été atteinte en novembre 2005, soit 5 ans après sa sortie. Donc, 100 millions de ventes en 5 ans et 9 mois. La première PlayStation, qui a été aussi une réussite de fou, il aura fallu attendre 9 ans pour qu'elle fasse 100 millions de ventes.
Ouais.
Genre, c'est un truc de... non, vraiment, mais la PS2, c'est... en fait, pour moi, la PS2, c'est la console reine de l'âge d'or du gaming. Vraiment. C'est-à-dire, elle est dans la ligne de la PS1 et elle vient décupler ce qui avait fait le succès de cette dernière, en fait. C'est-à-dire, une console techniquement à la pointe, qui a un espace libre à la créativité. On a eu le droit à tout sur PS2, c'est-à-dire des giga blockbusters comme San Andreas, Vice City, God of War, FF10, Tekken, Kingdom Hearts. Mais on a aussi le droit à des titres vraiment époustouflants qui ont marqué l'histoire et la culture du jeu vidéo. Je veux dire, MGS 2 et 3, Okami, Shadow of the Colossus, RE4, Silent Hill 2, Tony Hawk Pro Skater. Je peux vraiment faire... je peux en citer ouais. un milliard, mais... en fait, la PS2, elle avait la chance d'englober absolument tous les titres majeurs de cette génération. Sauf, bah voilà, Halo, Metroid Prime, Shenmue, qui sont pas arrivés sur PS2. Mais en termes d'influence, elle met en place le mot PlayStation. C'est-à-dire, elle a cette aura-là que Nintendo a vis-à-vis, par exemple, de la Game Boy. Vraiment, quand on parle de « Ah, tu joues à ta Nintendo, tu joues à ta PlayStation. » Et ça, c'est grâce à la PS2, en fait. Vraiment, ce truc-là. Et au-delà de ça aussi, c'est à ce moment-là que le jeu vidéo, il a commencé vraiment à gagner en maturité d'une certaine manière. Et c'est à se partir vraiment de la PS2 que le monde de la télévision, de la musique, du cinéma, ils ont commencé vraiment à se dire « Ouais, je pense qu'il faut respecter le JV, le considérer, et vraiment essayer de considérer le jeu vidéo comme peut-être le futur du divertissement, en fait. » C'est la PS2 qui a réussi à englober voilà, cette explosion culturelle en étant la vitrine de celle-ci. Je veux dire, d'un côté, on avait la Dreamcast qui est sortie beaucoup trop tôt, qui avait des bons titres, qu'on considérait déjà comme next-gen, mais elle en avait dans le ventre, la Dreamcast, mais derrière, forcément, tout le monde attendait la PS2.
En fait, c'est un peu ça, c'est que genre pour moi, la façon de résumer aussi pourquoi elle est en première place, c'est quand tu vois qu'il y avait quand même la GameCube, la Dreamcast et la Xbox, et que malgré tout, on est en mode, il y avait la PS2, elle a tout elle a détrôné tout alors ça en fait, elle a réussi à... alors que c'est que des consoles de qualité, c'est pas genre ah il y avait pas trop de concurrence, finalement ok c'était facile pour elle de prendre entre guillemets le lead, pas du tout, c'est qu'il y avait des consoles qui avaient des arguments, il y avait du Shenmue, il y avait du Metroid, il y avait du RE4, il y avait des choses, après c'est arrivé sur PS2, mais malgré tout la PS2 elle est juste venue en mode elle a installé tout de suite en fait une sorte de rythme auquel les consoles n'arrivaient pas à suivre, parce que en termes de confection, en termes de hardware, même la manette, c'est con, mais la DualShock, telle que cette DualShock là, avec du coup les vibrations qu'elle avait déjà et tout, c'est une manette qui faisait rêver. Moi, je me rappelle que les gens prenaient les manettes de PS2 quand on allait dans des magasins de jeux vidéo, genre des GameSide, des Micromania, des petites chaînes et tout. T'avais toujours plein de stands pour tester les consoles. La PS2, c'est celle où il y avait toujours 2-3 personnes. Parce que t'as envie de tester un jeu de PS2, t'as envie de voir qu'est-ce qui tourne dessus, qu'est-ce qu'il y a à montrer. C'est une console qui avait une aura, qui a encore un aura, qui est fou en fait. Genre, c'est dur à expliquer plus que c'est pour moi la console de salon par excellence. Ouais. Elle est sortie là maintenant, ouais, il y a 24, 25 ans. Et c'est encore une console, on va dire, à la PlayStation 2.
Ah ouais, non, mais c'est. C'est-à-dire, pour aller la chercher, en fait, il faudrait une nouvelle explosion culturelle, il faudrait un truc qui dépasse le jeu vidéo. Le problème, c'est que.
On l'aura plus, je pense.
Je pense qu'on l'aura plus, et du coup, la PS2 a cette chance-là. Moi, je pense, moi, le côté de. Bah, elle est dans une génération bénie en termes de créativité, ouais. En termes de titres. On n'a pas autant de problématiques modernes que dont le jeu vidéo subit de plein feu aujourd'hui.
C'est aussi ça, je pense que l'industrie, elle a. C'est tout, c'est à peu près retrouvé au même endroit. C'est que l'industrie a proposé des titres qui étaient hyper innovants, qui étaient bien adaptés, bien optimisés. Là où la Switch, elle a aussi cette révolution-là, mais en fait, à son niveau, elle galère avec des titres, elle a du mal à les faire tourner, donc c'est aussi une expérience qui est quand même moins satisfaisante. Pareil, si tu regardes le catalogue du nombre de jeux sur PS2 qui tournent en 60 FPS, en 3D, en fait, c'est que c'est une console qui venait pas. Elle essayait pas de faire plus que ce qu'elle devait faire. C'est-à-dire que la 360 et la PS3, c'est une génération de consoles qui veut faire trop. C'est l'HD, la génération vraiment console HD. C'est pour ça que les jeux tournent en 30 FPS, qu'il y a des chutes de framerate et tout, parce qu'on a, tellement.
On a été gourmand.
Évolution... Ouais, on a tellement été gourmand, il y a une évolution graphique qui était tellement rapide que les consoles avaient du mal et elles étaient en berne. Comme pareil pour la PS4, et le début de PS4 et Xbox One, t'es en même 1080p 60 FPS, on a eu du mal. PS2, c'est de la 480p 60 FPS, mais c'est ce qu'elle fait, elle le maîtrise de ouf. Et je trouve qu'il n'y a aucune autre console qui a réussi à réunir innovation technique, optimisation des jeux, hardware, proposition de titre, et tout est une sorte de symphonie qui sonne juste.
C'est pour ça qu'on avait des jeux qui sortaient sur PS2 jusque genre 2013-2014.
Ouais, c'est ça.
Il y a des images encore aujourd'hui, je crois, en Amérique du Sud, les gens ils jouent encore à la PS2. Ouais. Genre, et tu leur parles pas de PS5 et tout, genre je vois des images, j'ai un TikTok.
Ouais, tu me parles pas de PS5.
Ouais, tu me parles pas de PS5, genre les mecs ils jouaient à PES6 sur la PS2. Ouais, parce que la console en fait elle est juste trop bien. En fait, c'est. Il y a aucune autre console comme elle en fait. Et je pense que ça va être compliqué.
De la détruire.
Ouais. Ouais, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Mais voilà. Je pense que bah là, c'était un épisode long. On va peut-être revenir dans la saison 3 sur des. Peut-être faire des épisodes un peu plus spécifiques. Peut-être sur Sega, ce genre de choses. S'attarder peut-être un peu plus. Là, c'était vraiment un épisode assez global qui permettait de. Bah, d'inciter, en fait, à la curiosité. C'est-à-dire, allez vous intéresser à ces machines-là. Nous, chez RNG, vraiment, on aime les consoles. C'est en fait, elles arrivent à englober ce qu'on aime dans le jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire, c'est les machines à rêve, tu vois. Ouais. Et derrière, essayer de faire un classement, ça implique un travail de recherche qui est hyper intéressant. Et derrière, ça permet de mieux comprendre l'industrie dans laquelle on est, ce genre de choses. C'est toutes les dynamiques d'RNG, en fait. Voilà, ce classement-là, je pense, cet épisode illustre bien les dynamiques d'RNG, c'est-à-dire... la passion pour expliquer une industrie moderne.
Ouais, et puis les consoles, c'est ça, c'est que ça permet d'avoir un peu des sortes de timestamps, genre des marqueurs temporels, de voir comment l'industrie a évolué. Aujourd'hui, enfin, on en parlait dans le dernier épisode avec le PC, c'est compliqué en fait de encore estimer est-ce qu'on va encore avoir des générations de consoles. Je pense que notre épisode là, il est important là-dessus, c'est que si ça se trouve, la prochaine génération de consoles, ça sera la dernière. La génération de PS6 et de nouvelle Xbox. Il y a moyen que à partir de ce moment-là, on ait des...
On rentre dans une nouvelle ère.
On rentre dans une nouvelle ère du jeu vidéo, un peu comme avec les smartphones. Ça fait quelques années qu'on en parle. Mais on voit de plus en plus de rumeurs quand même à ce niveau-là, vis-à-vis des ROG Ally, c'est tout bête, mais les consoles portables. Ou même là, est-ce que vous allez voir des générations de consoles portables et de handheld PC? Pas vraiment, en fait. Il y aura du Steam Deck, il y aura du ROG Ally un peu plus performant, il y aura du Lenovo Go. Et on va peut-être avoir juste des petites boosts de performance par-ci par-là, des écrans un peu plus clean, mais avoir des consoles qui vont faire des gaps comme on a eu entre PS1 et PS2, de GT1 à GT2 à GT3, ou de la GameCube à la N64.
C'est révolu.
Ouais,
c'est révolu. Il y a plus de... Mais on peut, voilà, on peut regarder derrière et dire « Ah, c'était cool
!» C'était cool. Le jeu vidéo est toujours passionnant, et vous pouvez toujours brancher votre PS2 et kiffer tout ça. Mais ouais, on est à une ère où... Là, on est dans une transition. On parlait beaucoup de gaming moderne, on est dans une transition. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On sait juste que le jeu vidéo est encore vivant, il y a encore pléthore de titres passionnants à faire. Mais les consoles, à voir quel avenir elles vont avoir. Ouais, quel avenir.
Sur ce, c'était RNG, 93.9 FM, Radio Campus Paris, Spotify, Apple Podcast, tout ça. Je vous dis des bisous et on se dit à la rentrée.
Ouais, à la rentrée, ciao.
Vous êtes bisous. Bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could be...